Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mardi. J'espère que vous avez passé une bonne longue fin de semaine. Écoutez, je vais vous lire une phrase et vous allez me dire si vous trouvez que ce sont des propos haineux. Si je vous dis la phrase suivante, chaque être humain qui est dans cette pièce, chaque être humain sur Terre a dû passer entre les jambes d'une femme pour être sur Terre, fin de la citation, trouvez-vous que c'est haineux? Trouvez-vous que ce sont des propos transphobes? Trouvez-vous que ce sont des propos qui sont haineux pour les personnes transgenres? Cette phrase-là, elle a été prononcée en fait par l'humoriste américain Dave Chappelle dans une émission spéciale qui était diffusée à Netflix. Et là, il y a des gens, des personnalités transgenres qui disent « Ah, c'est effrayant parce que ça se fait pas parler d'une femme. Il faut... on reconnaît pas la transidentité. Il y a des femmes transgenres, il y a des hommes transgenres. Puis là, c'est effrayant de dire que tout le monde sur Terre est passé entre les jambes d'une femme. » Ça a créé toute une controverse aux États-Unis. Moi, je suis tout à fait pour la défense des personnes transgenres, mais quand c'est rendu qu'on n'a même plus le droit de dire que chaque être humain qui est sur Terre est passé entre les jambes d'une femme et que ces propos-là sont considérés comme transphobes, on est vraiment rendu loin. Quand j'ai vu qu'il y avait toute une controverse autour de cette phrase qui est pourtant tout à fait anodine, j'ai poussé un grand et découragé « Ben voyons donc ».
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
On connaît François Massicotte, humoriste, auteur et comédien, mais il est aussi porte-parole pour la Fondation Douglas, donc on parle bien sûr de santé mentale. Et la Fondation lance ces jours-ci un mouvement super important pour soutenir la recherche en santé mentale. On en parle tout de suite avec François Massicotte. Bonjour François.
Salut, salut, ça va bien?
Écoute, moi ça va très bien. Toi, comment ça va, François?
Oui, ça va bien. Occupé avec beaucoup d'enfants.
Oui!
Oui, ça va bien.
Oui, on va peut-être en reparler plus tard, mais t'es rendu avec 4 enfants, une vie de fou, une émission à la télé, justement, qui documente ton quotidien. Mais écoute, oui. Ces jours-ci, je pense, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de santé mentale, et en particulier de santé mentale des hommes, en particulier avec ce qui est arrivé, évidemment, à Carey Price la semaine dernière, qui a décidé de se retirer puis de prendre soin de sa santé. Je vais peut-être commencer avec ça, François. Pourquoi? Oui. Comment tu as réagi, toi, quand t'as vu que quelqu'un d'aussi connu, d'aussi aimé, respecté que Carey Price disait « ben j'ai des problèmes, il faut que j'aille me soigner ».
Oui, ben bonne question, parce qu'effectivement, c'est dans l'air du temps, ben, depuis tout l'été. On a Carey Price, oui, mais avant ça, c'était Jonathan Drouin qui a annoncé qu'il y a un mois, là, qu'il avait manqué à cause de son anxiété, puis un manque de sommeil, puis qu'il n'était plus capable de fonctionner. Puis, ah, bon, enfin, un roi de hockey qui nous en parle, qui s'ouvre là-dessus, là, qui essaie pas de le cacher. Là. Déjà, c'était beaucoup, mais avant ça, on a vu les Jeux olympiques, c'était que ça durant les Jeux olympiques. Il y avait Simone Biles, la grande athlète, le gymnaste olympique, médaillé d'or, qui allait tout gagner, qui a décidé après une épreuve de dire non, je peux plus continuer, je suis plus capable. Puis de voir que c'était correct pour une athlète de dire je suis plus capable de continuer, je suis plus capable. C'est correct de dire it's okay to say it's not okay, I'm not okay. C'est correct de dire que là, ça va pas.
C'est bien résumé.
La première fois, puis durant les Olympiques, là, toute l'attention mondiale est là-dessus. Hey, ça, c'est quelque chose. Hein? Et après ça, on a eu aussi au tennis. Ça s'est passé vraiment dans le sport, je trouve, dans les derniers mois. La joueuse de tennis
Osaka,
ben oui, qui est devant notre Montréalaise, au troisième siècle, à la fin du deuxième siècle, là, qui a vraiment perdu la carte, là, puis qui a pitché sa raquette, puis tout, puis après ça, elle a dit bon, là, faut que je prenne un break. Ça va pas, faut que je prenne une pause. Et là, de voir que c'est correct de le dire, il faut le dire, mais là, on le dit souvent qu'il faut en parler, mais là, ce qui se passe avec la Fondation Douglas, c'est qu'on peut enfin agir, faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ceux qui vont pas bien? Ben, c'est justement, c'est
c'est trop mignon. Moi. Oui.
C'est qu'on peut aider la recherche, parce que c'est par la recherche que ça va avancer, les choses vont avancer. Moi, par exemple, bon, je suis bipolaire depuis 20 ans, je prends la médication, tout va bien. Mais tu sais, Mon père ne prenait pas de la médication, ça n'allait pas super bien. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, elle, était bipolaire, mais elle était à l'asile. Elle a eu des traitements aux électrochocs, ce qui était traumatisant. Donc, mon père ne voulait rien savoir de la médecine là-dessus, tu sais, parce qu'il ne faisait pas confiance à la médecine. Mais après ça, grâce à la recherche, on a la médication. Aujourd'hui, moi, je fais très bien, tu sais, je fais ma vie normalement.
Mais c'est super important ce que tu dis, François, parce que juste en nous faisant le portrait des trois générations de Massicotte, ouais, partir de ta grand-mère, ton père et toi, ça nous permet d'espérer que justement la prochaine génération que tu tiens sur tes genoux puis qu'on entend faire des guili-guili au micro, que justement la génération de tes quatre enfants, pour eux, les choses seront plus faciles parce qu'on donne des sous pour la recherche. Mais je veux juste revenir sur ce que tu viens de nous dire. Toi, il y a 20 ans, donc, t'as pris conscience que ton trouble, c'était d'être bipolaire. Est-ce que tu te rappelles, François, le jour où toi, t'en as parlé publiquement la première fois, puis l'impact que ça a eu?
Publiquement, je me souviens pas de la première fois. Je me souviens de ma première réaction face au diagnostic quand j'étais dans le bureau du psychiatre, quand je suis revenu chez nous. Ça a été justement de dire, là, moi, j'en parle. Puis là, c'était avant toutes les campagnes, là, il faut en parler. Moi, c'était juste par rapport à mon expérience personnelle de mon père qui en parlait pas. Bon, là, moi, j'ai dit, non, moi, je vais pas cacher ça. Je vais en parler tout de suite. Et j'en ai parlé tout autour de moi. Puis, aucune réaction négative. Au contraire, tout le monde disait, ben oui, mais t'es humoriste, c'est sûr. T'es artiste, c'est sûr. T'as des hautes intentions. Allez, t'explique.
C'est normal que tu sois un peu bizarre dans ta tête. T'es humoriste. C'est pas un métier normal. Mais en même temps, t'es chanceux. Mais t'es chanceux aussi parce que t'es dans un milieu, justement, le milieu plus artistique où des gens différents, des gens peut-être un peu bizarroïdes, des gens qui sont un peu excessifs même. C'est peut-être mieux accepté. Si t'avais été comptable agréé, je suis pas sûre que t'aurais eu la même réaction en disant « je suis bipolaire ».
Peut-être pas, je sais pas. Je peux pas dire, je sais pas. Puis par la suite, j'en ai parlé publiquement, tout de suite. Puis ce qui m'a fasciné, c'est de voir la réaction des autres, la réaction du public, la réaction des gens qui venaient me voir et me disaient « Hey, merci d'en parler ». Tout de suite, des gros merci. Là, à me prendre par les bras, me dire « Merci d'en parler ». Je suis content de voir que je suis pas tout seul, de voir que t'es un exemple, que ça va bien, puis t'attends, puis que t'as pas peur d'en parler, puis que moi, j'ai toujours eu peur d'en parler, de dire « Non, il ne faut pas avoir peur, Alors, tout ça, et même de recevoir un courriel d'une personne qui disait, moi, c'était décidé, à la fin de la journée, je fermais mon commerce, puis c'était fini, là, j'en finissais. Là. Mais j'attendais que mes clients sortent, j'ai pris un article, j'ai lu la revue le lundi, c'était un article sur t'expliquais ta bipolarité, puis j'ai compris que c'est ça que j'avais. Puis aujourd'hui, je suis encore en vie grâce à ça. Ça peut aller jusque-là. Là,
incroyable. Donc, il y a des gens qui songeaient à mettre fin à leur jour et parce qu'ils ont vu... Non, mais ça, c'est énorme ce que tu es en train de nous raconter, François.
Non. Vieux, j'en venais pas, là. Oui, je vais toujours m'en souvenir, là, c'est incroyable. C'est pour ça que ça m'a... Après ça, j'ai dit, OK, je vais toujours en parler.
Donc, c'est pas tout d'en parler. On peut vraiment aider. Donc, raconte-nous, c'est quoi ce mouvement-là, donc lancé par la Fondation Douglas, Bâtissons l'espoir.
Bien, c'est comme on a parlé, on a dit souvent qu'il fallait en parler, mais là, enfin, on peut agir. Donc, faire un don. La Fondation Douglas, c'est le plus grand centre de recherche au Québec, le deuxième plus grand au Canada. Alors, il y a énormément de chercheurs, mais là, quand on parle de recherche, souvent, on se dit, c'est pour dans 10-20 ans. Non, c'est pour dans l'immédiat, là, dans le futur très proche, comme par exemple pour aider la thérapie dans les soins. Tu sais, souvent, on parle de maladies mentales qui ne guérissent pas, mais qui peuvent se soigner très facilement, comme moi, pour la bipolarité. Mais par exemple, chez les jeunes qui ont des troubles d'alimentation, l'anorexie, la boulimie, toutes les thérapies qu'on utilise au Québec présentement viennent de l'Institut Douglas.
Je ne savais pas.
De soutenir ça. Donc, cette semaine, c'est facile parce que dans tous les dépanneurs couche-tard, on peut faire un don à la caisse pour la Fondation Douglas.
Alors, c'est drôlement important de parler, évidemment, de cette fondation-là, puis tu nous apprends plein de choses que moi, je ne savais pas. C'est important de donner des sous, évidemment, pour faire de la recherche. Mais revenir sur ce cette stigmatisation aussi de la santé mentale? Parce que si je te recevais aujourd'hui, François, pour parler d'une campagne, parce que, bon, disons que tu avais eu un problème cardiaque il y a 10 ans, puis qu'aujourd'hui, tu venais nous parler en disant « c'est important de donner de la recherche pour savoir comment le cœur fonctionne », il n'y en aurait pas de stigmate. Mais là, la santé mentale, les gens en parlent, puis là, on fait attention, puis il y a encore des gens qui sont gênés d'en parler. Alors, si tu as quelqu'un qui nous écoute et qui a peur de dire à son entourage ou qui a peur de dire à son employeur « j'ai un trouble de santé mentale », qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là?
Ben, pourquoi avoir peur? C'est pourquoi ne pas s'aider soi-même. C'est ça, là. Si on peut, enfin, on peut avoir un exemple. On parlait de Carey Price au début. Carey Price, Carey Price peut le dire, tout le monde peut le dire. C'est le super-héros du joueur de hockey du Canadien. Non, mais sans blague, tu sais, c'est pas. Si on ne le dit pas, on va juste s'enfoncer encore plus. Et même c'est aider les autres à comprendre ce qui se passe. Parce que si on a un problème de santé mentale, les autres, ils vont sûrement s'apercevoir que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, c'est d'enlever le brouillard de dire, hey, regarde, c'est ça qui se passe. C'est ça. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit la dépression, l'anxiété, n'importe quoi. De l'expliquer, regarde, c'est ça qui s'est passé ou c'est ça qui se passe. Puis ils ont, enfin, ils peuvent comprendre. Donc, je prends une pause, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aide. Ou quoi que ce soit, je m'en vais chercher de l'aide, je vais revenir. Ah, OK, on peut comprendre enfin la personne. Et ça, c'est hyper important, parce que sinon, on dit, mais pourquoi qu'elle m'aime, pourquoi qu'elle réagit de même, on le sait pas. Fait que c'est là qu'on peut avoir on peut juste dire, il est de même, ou il est ci, il est ça. C'est important de l'expliquer, de le dire, puis de l'exprimer.
Oui. Tu nous parlais tout à l'heure de tes quatre enfants. T'as une famille vraiment différente, à géométrie variable. Qu'est-ce que t'as dit?
Je vais te corriger, j'en ai cinq.
Ah oui, excuse-moi.
J'ai un grand de 20 ans aussi.
C'est vrai, comment ça fait qu'on parle pas de lui? Ben non, c'est ça, t'en as cinq, excuse-moi. Et il y a même une émission avec toi et Bianca où on suit votre quotidien. Pourquoi t'acceptes de faire des projets comme celui-là, laisser des caméras rentrer chez toi? Est-ce qu'il y a un but d'éducation ou de t'amuser ou...
On laisse pas vraiment des caméras rentrer chez nous comme ça. C'est qu'on a fait une émission pendant la pandémie où on ne pouvait pas faire de spectacle. Alors, on a eu ce projet-là depuis quelques années qui nous a été demandé plusieurs fois. On n'avait jamais eu le temps de le faire. Mais on voulait pas faire une docu-réalité où les gens rentraient et filmaient n'importe quoi toute la journée, puis comme des caméras cachées comme c'est dans la maison de Big Brother. Là. Mais pas du tout. On disait, bon, aujourd'hui, venez-vous-en, on va vous montrer qu'est-ce que c'est qu'il fallait d'avoir à la maison avec les enfants. On va vous montrer qu'est-ce que c'est que... Alors, c'est plus, on accepte, puis on prépare un peu, on fait quelque chose avec les caméras, avec les enfants, ou pas. Les enfants n'étaient pas tout le temps là. Puis on peut expliquer c'était quoi qu'on faisait, comme la boutique en ligne dans le garage, ou faire une activité avec les enfants, on partait avec eux autres. Puis alors, ça avait du fun. Puis ils ont toujours accepté de faire ça. Puis s'ils n'avaient pas voulu, ou sinon, qui n'y avait pas voulu, ils n'auraient pas été dans le tournage, c'est tout. Et ils ont bien aimé ça. C'était bien agréable. C'était dans une version vraiment divertissement. Là, on est deux humoristes, là, puis on s'amuse avec les enfants. Puis c'était ça.
Alors justement, parlant d'humoriste, toi, est-ce que tu commences à avoir hâte de remonter sur scène puis que la vie revienne à la normale?
Là, Bianca, c'est chacun son tour. Là, c'est Bianca qui finit ses tournées. Mais là, j'avoue que moi, ça commence à faire longtemps que je suis pas parti faire des shows. Puis là, je commence à avoir hâte là, de ressortir mon bureau. Parce que là, c'est moi qui est avec les enfants le vendredi soir, puis le samedi soir, à part faire des shows. Fait que là, oui, j'aurais envie d'aller. J'ai hâte aussi, oui.
Ben, écoute, après. Mais c'est particulier. Votre histoire est quand même spéciale parce que c'est vraiment un couple de 2021. C'est-à-dire que vous avez tous les deux une carrière dans le même domaine. Puis des fois, c'est un qui s'efface plus pour laisser de la place à l'autre. Là, c'est l'autre qui s'efface plus. Puis pendant ce temps-là, il y en a un qui doit s'occuper des nombreux enfants. Mais je trouve que c'est formidable l'équilibre auquel vous êtes arrivé. C'est un bel exemple, c'est un beau modèle pour des gens qui se disent, ben comment on fait pour gérer deux carrières en même temps?
Ben on est chanceux de pouvoir le faire, tu sais, parce que moi, je suis chanceux de pouvoir dire, ben financièrement, juste qu'elle fasse les choses, c'est assez. Je sais pas, on a besoin d'être les deux à travailler. Si c'était le cas, ça serait beaucoup plus difficile, tu sais. Moi, je peux faire, OK, pas de problème. Moi, je reprendrai quand ça me tentera et pas de problème, là. Ou si j'étais dans le milieu de ma carrière où je peux pas arrêter parce que là, il y a des producteurs puis il y a du monde autour qui disent, non, faut que tu fasses un autre spectacle. J'ai aucune pression. Moi, je fais ce que je veux. Je peux pas recommencer si je veux. Puis je pourrais prendre ma retraite, ça serait plus correct aussi. Fait que ça, on est chanceux là-dessus, oui. De dire, OK, toi, tu veux faire ce projet-là, go. Puis après ça, je ferai le mien si ça me tente. Alors oui, on est vraiment chanceux, puis on l'apprécie.
Donc, ce qu'on comprend, c'est que Bianca fait tellement d'argent que tu peux te permettre de ne pas retourner travailler. On adore
non,
ça.
Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai bien négocié mes contrats de sponsor. Maintenant, je peux prendre des breaks.
C'est ça, excellent. Bon, ben, le papier absorbant, finalement, c'est payant. Vous avez très bien géré ça, tous les deux. Écoute, on pouvait pas, évidemment, se quitter sans une touche d'humour. C'est toujours un plaisir de te parler, François. Puis, encore une fois, je reviens sur ce dossier-là de la santé mentale, l'importance, tu t'en parlais tout à l'heure, de nommer les choses, de mettre un mot juste sur ce qu'on sent, sur la façon dont on se sent, puis on se rappelle que donc cette semaine, toute la semaine, on donne des sous pour aider la Fondation Douglas qui fait un travail essentiel vraiment pour la recherche sur la santé mentale. Merci beaucoup François, donne un bisou à ton dernier-né, c'est Kimi, c'est ça?
C'est Kimi, oui.
J'ai vu des photos, il est vraiment...
Ben,
t'es gentil. Mais je vais lui parler de ton modèle où c'est la femme qui fait... Puis le gars reste à la maison, s'occupe des enfants. Je vais en parler avec Martineau, on va voir ce qu'il en pense. Merci beaucoup.
Oui, sûrement qu'il va être d'accord. OK. Salut, bye-bye.
Oui, mais lui, il a pas fait de publicité pour du papier absorbant. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Il s'est trompé de carrière.
Ben, alors, tu renégocies ton contrat pour un peu de salaire. Je sais pas si quoi va te faire une vie.
T'es super drôle. Merci beaucoup, François.
Okay,
François.
Merci. Bye-bye.
François Massicotte, donc auteur, animateur et humoriste, bien sûr, et qui, il y a quelques années, a fait cette déclaration-là, a parlé publiquement de sa santé mentale et qui, maintenant, est porte-parole pour la Fondation Douglas et ce mouvement, donc Bâtissons l'espoir pour soutenir la recherche en santé mentale.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio. Les rencontres de l'air.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
On la connaît sous le nom de Marie-Claude Barrette, mais en fin de semaine, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sont rendues compte que finalement, c'était la brebis bergère. Marie-Claude, bonjour!
Salut, j'avoue que je pensais pas que tu allais me parler de ma brebis bergère.
Ben, écoute ça...
Je l'ai tellement aimé, mon personnage, ça n'a pas de bon sens.
Écoute, Marie-Claude, on t'a entendu et vu donc à l'émission Chanteur masqué. Je voulais juste te faire un petit clin d'œil. On passera pas toute la chronique là-dessus, mais juste te dire à quel point j'ai découvert ta voix vraiment, des deux performances absolument magnifiques. Donc, en général, t'as aimé ton expérience à Chanteur masqué.
Ah ouais, absolument. Écoute, j'ai travaillé avec Fred Saint-Gilet, là, tu sais,
j'en connais pas Dieu.
Talent. Je suis allée dans un studio professionnel d'enregistrement. On a pratiqué les chorégraphies avec Kim Gingras, que déjà j'admirais, tu sais, elle a dansé avec les plus grands, puis je pouvais pas y parler parce que quand t'es un chanteur masqué, t'es absolument anonyme. Donc imagine, t'es avec quelqu'un que t'apprécies, est à côté de toi, t'es dans ton gros costume et je pouvais pas, j'avais pas le droit de m'adresser la parole, mais c'est vraiment en partant de la maison, tu sais, on est tous habillés en noir, puis c'est écrit sur le chandail « Ne me parlez pas ».
Ah ouais.
Ah oui, on nous attend secrètement dans un stationnement qui est pas du tout à l'endroit où on chante. Et on avait une visière, mais une visière là, qui pouvait faire peur, là, complètement noire. Et là, on embarquait dans une minivan et pas le droit de parler parce que les personnes ne savent pas qui on est. Alors moi, j'ai bien aimé déjà cette aventure-là parce que ce côté-là mystérieux me plaisait beaucoup. Donc, il y avait vraiment, on voulait rester anonyme. Moi, j'avoue que j'aurais aimé rester un peu plus longtemps dans l'aventure parce que j'avais une belle chanson qui s'en venait de Sia, qui était celle que Bird Set Free, que j'adore les paroles, j'adore les chansons, elle était enregistrée. Malheureusement, ça s'est arrêté à ce moment-ci pour moi, mais peu importe, j'ai quand même vécu une déception, j'ai vu ça comme un deuil. Ben, je le dis, là, parce que c'est tellement extraordinaire.
Mais oui!
À partir de cette gang, là, moi, je veux pas... Patrick Martel, qui est celui qui a créé la brebis bergère accompagnée de Florence. Écoute, c'était déjà extraordinaire. Moi, ça prenait comme 15 minutes mettre mon costume. J'étais avec eux. On est parti d'un dessin à ça. C'est extraordinaire vivre ça et ça s'enregistre dans les locaux du Cirque du Soleil. Donc, tu sais, c'est une chance quand tu n'es pas une chanteuse d'arriver dans un contexte comme ça et de le quitter. Ben, c'est triste. Là, je me suis faite à l'idée que c'était terminé pour moi, mais quand même. Et tout ça caché, hein? Moi, je me souviens, juste faire une histoire courte, j'enregistrais le pilote de mon émission et, tu sais, ça s'étirait un peu tout ça, mais moi, après, je m'en allais secrètement. Ouais, je ne l'ai pas dit à personne. Et le soir que j'ai terminé sur la scène, ce que tu as vu dimanche, il était 2h du matin à ce moment-là.
Ah oui? Oui, fait que là, faut que tu préviennes ton monde. Tu leur dis, bien, il est 2h du matin, je rentre, mais je peux pas vous dire pourquoi je suis restée à l'extérieur
Exactement,
de la maison.
Tu peux pas le dire. Et en même temps, tu es en réunion à 7h le matin. Ouf. Tu fais ta chronique de radio. Tu sais, je veux dire, tu peux pas dire, hey, je suis fatiguée, je suis arrivée tard. Mais c'est ça. Alors, c'est bravo à Déferlante parce que c'est une grosse, grosse, grosse production. Et moi, je l'ai vécu, je dirais. Avec beaucoup de façon ludique, j'ai endossé ça complètement. J'ai aimé ma bergère. J'aurais aimé partir avec mon costume, mais non, ça, c'était pas possible.
Ils vont devoir, ils vont les garder dans les archives, mais en tout cas, on va se souvenir aussi de tous les indices avec la campagne et tout ça, ouais. Puis la photo de Céline Dion. Donc, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont deviné que c'était
oui.
toi. Donc,
oui.
Ben écoute, moi, j'étais dans mon salon, j'avais aucune idée. Moi, j'avais pas compris les indices, mais en tout cas, t'avais l'air tellement contente quand t'as enlevé ton costume. T'avais l'air d'avoir eu du fun et ça paraissait oui. vraiment à travers l'écran. Donc, je pouvais pas quand même avoir une entrevue, une rencontre avec la bergère, la brebis bergère, puis pas t'en parler. Écoute, Marie-Claude, un sujet beaucoup moins ludique, beaucoup plus inquiétant. C'est la quantité de gens dans le système de santé qui refusent encore de se faire double vacciner et qui donc leur ordre professionnel leur dit ben écoutez vous allez être suspendu. C'est pas des bonnes nouvelles.
Ben c'est pas des bonnes nouvelles. Écoute, moi je quand je regarde ça, je lisais ça partout en fin de semaine ce matin. Puis tu sais, même depuis que le passeport vaccinal est éligible, on sent quand même qu'il y a un clivage là. Tu sais, on pense toujours à l'annonce que la publicité où la personne essaie de rentrer, puis elle se frappe, elle rentre dans un mur de verre là. Ben là, ça s'accentue, ça s'accélère, et je me dis, mais qu'est-ce qui va rester de ce clivage là? Imagine la pression qui s'ajoute sur les épaules de ceux et celles qui se sont fait vacciner dans le système de santé. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié la science, hein, pour rentrer dans un hôpital, tu as un minimum de scientifique en toi. Là, je peux pas croire que tu t'envoies infirmier, infirmière, tu crois pas en la science. Inhalothérapeute, tu crois pas en la science. Médecin, tu crois pas en la science. Ça n'a aucun sens. Alors, ces gens-là, ils vont se faire suspendre. Même à ça, c'est pas suffisant pour les convaincre d'aller se faire vacciner. Mais en quittant, ils laissent quand même une pression immense sur les épaules. On sait qu'on est en... Il manque déjà de personnel.
Déjà.
Et d'enlever un 3, 4, 5 % du personnel qui sera pas là à partir du 15, moi, je trouve ça épouvantable. Et je me dis, ces gens-là, là, parce que oui, c'est des infirmières, infirmières, des médecins, inhalothérapeutes, peu importe, il reste que c'est du monde comme toi puis moi. Là. Ils ont des amis, ils ont une famille. Leur salaire là, sert à payer leur maison, sert à payer l'épicerie, sert à vivre. Alors là, ils sont suspendus. Là. Il n'y a plus rien qui va rentrer là, comme revenu. Comment ils font pour continuer à vivre normalement? Dans quel monde ils et elles vivent? Surtout si la base, parce qu'elles ne croient pas au vaccin. Tu sais, il y en a qui ont d'autres croyances, mais si tu ne crois pas au vaccin, moi, je me dis, cherche-toi un autre job ailleurs. Là.
Ben, exactement.
Retourne pas dans le système de santé. C'est terminé pour toi, là.
Ben, c'est comme la comparaison que je faisais un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est comme un pompier qui croit pas dans les avertisseurs d'incendie. Je veux dire, puis qui se promène de porte en porte en disant aux gens, surtout, ne faites pas installer des avertisseurs d'incendie. Ben là, va faire autre chose. Va flipper des burgers chez McDo, là. T'es pas à ta place comme pompier. Et écoute, moi, dans mon entourage, il y a un de mes amis qui est médecin. Et un de ses collègues, tu sais, c'est vraiment un médecin spécialiste. Un de ses collègues préfère perdre son emploi plutôt que de se faire vacciner. Tu dis, OK, toi, tu as fait des études pendant des années, tu sais, 10 ans de médecine, plus toutes les années pour se spécialiser, et tu préfères laisser tout ça sur la table plutôt que de te faire piquer. J'aimerais ça vraiment que un psychologue vienne m'expliquer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est prêt non seulement à laisser énormément d'argent sur la table, mais aussi faire une croix sur des années d'études, mettre en danger donc la survie de sa famille, parce qu'il y a ce gars-là a des enfants, mais surtout qui préfère faire ça plutôt que de prendre soin des gens, qui préfère aller travailler en n'étant pas doublement vacciné, donc en mettant à risque les patients dont il est censé sauver la vie. Ça, il va falloir qu'un psy me l'explique.
Exactement. Et il ne faut pas oublier que ces gens-là sont aux premières loges. Ils ont vu d'autres, ils ont vu des patients avoir la COVID. Ils ont vu des patients qui ont perdu la vie à cause de la COVID, tu sais. Alors, moi aussi, je ne comprends pas. J'aimerais vraiment faire une entrevue avec quelqu'un juste pour rentrer dans sa tête. Ça, c'est à quel moment il y a une brisure? Elle est où, cette cassure-là, pour arriver d'essayer de comprendre minimalement, mais présentement, c'est impossible. Puis là, on parle des infirmiers et infirmières, des médecins et tout ça. Mais dans la société en général, le 1er novembre est une date butoir importante aussi, comme par exemple dans le milieu de la TV, il y a plusieurs diffuseurs, plusieurs producteurs qui, au 1er novembre, si tu n'as pas le passeport vaccinal, c'est terminé, tu ne peux plus agir à titre. Il y en a que ça va être des comédiens, des animateurs, peu importe, mais moi, je connais des producteurs, je connais des gens, là, puis je connais aussi des animateurs. Tu sais, il y a des gens dans le milieu aussi qui sont silencieux présentement, et il y en a qui ne sont pas vaccinés. Il y en a que c'est pour qui vont dire, ben moi, c'est une raison médicale, j'ai peur que ça détériore ma condition. Il y en a que c'est pour d'autres croyances. Mais il reste que tranquillement, on est en train d'effriter quelque chose. Et c'est sur une base volontaire de ces gens-là. Tu sais, quand tu as un métier que tu aimes et tout à coup, le 1er novembre, tu te dis non, moi, je vais tout arrêter parce qu'il n'est pas question que j'aie le vaccin. Écoute, moi, j'en connais, je connais une de ces personnes-là, entre autres, puis je suis sans voix devant ça. Je me dis, mais voyons donc, tu vas tout perdre pour un vaccin. Et ça, Sophie, c'est que, tu sais, le vaccin, je pense que ça va être renouvelé d'année en année. J'ai comme l'impression qu'on va poursuivre ce vaccin-là. Alors, ces gens-là, à quel moment ils vont réintégrer le système? Moi, je me pose bien la question, pas juste dans le milieu de la santé, ailleurs, à quel moment, s'ils se font jamais vacciner, vont-ils pouvoir refaire leur métier? Moi, c'est ma question.
Oui, mais je comprends ta question, puis je te dirais, moi, peut-être que je suis une sans-cœur, puis peut-être que je suis extrêmement cynique, mais j'ai pas de pitié pour ces gens-là, dans ce sens que c'est pas juste de se protéger. Eux, je trouve ça extrêmement égoïste. Eux disent, bon, ben moi, je veux pas me faire doublement vacciner. Mais ce dont ils se rendent pas compte, c'est que si ils continuaient à travailler, si on n'imposait pas ces règles-là, eux mettraient en danger tous les gens avec qui ils seraient en contact. Tu sais, je pense, par exemple, justement, à Guillaume Lemaitre Vierge. Bon, lui, il a décliné un contrat. Il devait réaliser District 31. Parce qu'il voulait pas, lui, il préfère attendre d'avoir d'un autre vaccin, un Medicago. Mais s'il était allé, en effet, sur le plateau de tournage de District 31, puis qu'il avait été en contact étroit avec des comédiens, avec Gilda Roy, avec Guillaume Otis, ben, il aurait peut-être pu, ces gens-là sont doublement vaccinés, mais il aurait pu simplement leur donner la maladie. Peut-être qu'ils auraient eu une grosse grippe. Ben, résultat, pendant une semaine ou deux semaines, ces gens-là n'auraient pas pu travailler. Donc, je trouve que quiconque, aujourd'hui, là, avec tout ce qu'on sait, puis depuis le temps, les gens qui refusent encore de se faire vacciner sont profondément égoïstes.
Ah, oui, puis faut pas oublier que, par exemple, ces acteurs-là peuvent avoir des enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas encore de vaccin pour eux et avoir la COVID. Il y a des enfants qui vont retransmettre ça à d'autres personnes qui vont tomber malades, puis il y a des enfants aussi qui sont malades de la COVID. Donc, le risque est très grand de contamination. Moi, je pense toujours aux moins de 12 ans, là, parce que eux, là, ils n'ont aucune protection. Moi, ce week-end, j'ai lu le livre du docteur François Marquis, « Mes carnets de pandémie ». Et écoute, là, je veux dire, quelqu'un qui lit ça, là, à un moment donné, là, tu peux-tu comme juste avoir une sensibilité, comme tu dis, de l'empathie, de l'ouverture à l'autre, laisser ton petit toi-même là, de côté, puis dire, c'est un geste... C'est un geste de solidarité, la vaccination. C'est un geste pour s'en sortir. Il y a tellement déjà de conséquences de la COVID. Écoute, toutes nos discussions finissent par parler de la COVID.
Mais oui.
Dans la vie, au travail, partout. C'est omnibus. Juste se voir, on a toujours des masques devant notre visage. C'est terrible ce qu'on vit. Alors, est-ce qu'on peut je suis pas capable de le dire. Tous ensemble, être capable de s'en
solidairement.
Sortir. Solidairement, être capable de s'en sortir. Et ces gens-là, moi, je pense qu'ils ont, en tout cas, ils ont un examen de conscience, mais à quelque part, là, ceux qui résistent encore, là, Sophie, qui vont tout perdre là, vendredi, j'ai comme l'impression là, qu'il n'y a plus rien à faire. J'ai comme l'impression qu'eux, ils sont rendus ailleurs, ils se nourrissent entre eux et ils pensent qu'on est, tu sais, une gang de moutons, puis c'est nous, dans le fond, qui faisons l'erreur. Mais reste que dans notre système de santé, avait besoin de ces gens-là. Et maintenant, ben, ils n'en feront plus partie. Mais je trouve ça épouvantable, ce qu'ils font vivre à leurs proches, à leur famille. C'est vraiment un geste, comme tu le dis, purement égoïste, à mon avis aussi.
Oui. Il y a un sujet dont tu voulais absolument parler, c'est le prix des loyers. Écoute, moi, là, je suis contente d'être rendue là où je suis, mais j'imagine quelqu'un qui commence dans la vie, là, quelqu'un qui vient de finir ses études, qui a le goût de s'acheter une maison pour se partir dans la vie, c'est absolument pas abordable.
Ben moi, je l'ai vécu ce printemps avec ma fille Angela qui, tu sais, à 24 ans, là, a décidé de dire, ben regarde, moi, je vais, j'ai commencé à travailler, a fini sa maîtrise et tout ça. Elle dit, ben là, je vais m'acheter un condo. Je me suis mis des sous-côtés, ça fait longtemps qu'elle travaille, puis je veux à m'acheter un condo. Je trouve que c'est un bon investissement. Et là, c'était impossible, Sophie.
Ah oui?
Parce qu'il y a eu un gonflement des prix. Je veux dire, le prix qui était demandé, ça finissait vraiment plus cher que le prix demandé. Puis là, tu sais, à un moment donné, et là, finalement, c'est assez loin d'appartement. Et le prix de l'appartement, ça n'a aucun sens.
Même en location.
Elle a décidé d'aller en location quand même. Donc, mais la capacité de se mettre de l'argent de côté une fois que tu as payé ta location, c'est complexe, c'est difficile. Elle est seule. Moi, je voyais dans le journal, entre autres, le Journal de Montréal ce matin, là, un père de famille de 3 enfants. Ils ont 6, 12 et 14 ans,
oui,
les enfants.
Oui, cherche.
Mais la mère et le père travaillent à temps plein, Sophie. Là. Ça, là... Ça marche pas dans notre économie. Quand tu as des personnes qui travaillent, qui sont pas capables de se trouver un loyer, puis lui, son budget, là, la famille, le budget, c'est 1300 $ par mois. Ils ont un avis d'éviction parce que leur bloc appartement va être démoli. Là. Donc, ils n'ont pas le choix. Là. C'est pas un caprice. Là. Ils n'ont pas le choix. Là. Le chauffage a été coupé dans le bloc appartement. Donc, ils se chauffent avec le fourneau présentement parce qu'on sent que ça devient imminent que ça va être démoli. Mais 1300 $ pour un loyer, c'est sûr, moi, je commence à être plus vieille, mais dans mon temps, comme mes parents disaient tout le temps... Dans mon jeune temps, un 3,5, c'était 350, un 4,5, c'était 450, puis un 5,5, c'était 550 $ là. C'était comme ça. Là.
Absolument.
Maintenant, on n'est plus là du tout dans les prix. Et moi, je me dis, mais comment ça se fait qu'on en arrive là? Comment ça se fait que ceux qui construisent des nouveaux blocs appartements sont subventionnés, en fait, ont des prêts avec un faible taux d'intérêt pour favoriser les appartements un peu moins chers? Et c'est pas le cas du tout. Et quand je vois cette famille-là, je me dis, elle est pas seule, cette famille-là, avec un cas comme ça. Donc, c'est pas parce que les gens travaillent pas, là. C'est parce qui met de l'argent dans ses poches. Et ça, je me demande, comment, tu sais, c'est certainement tout le temps nous qui payons le consommateur. Regarde, si tu veux faire rénover ta maison, mettons que tu fais le choix de pas déménager.
Ouais.
Ça n'a aucun sens, le coup, que déjà trouver de la main-d'œuvre. Et après, ben écoute, tout le monde se met de l'argent dans ses poches. Si tu veux avoir un appartement, tu mets de l'argent dans tes poches. Puis présentement, avec le gonflement des prix des maisons, ben il y a bien du monde qui se met de l'argent dans leur poche aussi. Mais la personne qui cherche sa première maison, qui cherche un appartement, parce qu'avoir accès à la propriété, moi, je me souviens, Georges Brossard, qui est décédé,
l'entomologiste, oui.
Exactement, il était notaire. Lui, il a commencé comme notaire dans sa vie, parce que lui, son but, c'était, il faut que les gens aient accès à la propriété. C'est ça, la richesse. C'est quand tu as ta première maison, puis à un moment donné, ben il a décidé de faire autre chose. Il a compris qu'il en avait fait beaucoup pour ces gens-là. Mais moi, je suis toujours restée avec ça. C'est vrai qu'avoir ta propriété, t'as un bien qui va croître. Donc, si tu mets pas tout de côté, au moins ta maison, elle te fait faire de l'argent parce que c'est le coût du marché. Mais quand tu n'es même pas capable d'avoir accès à ta propriété et tu travailles à temps plein, c'est très inquiétant, je trouve. Puis il va falloir qu'on se penche là-dessus à un moment donné parce que ça n'a aucun sens qu'on est en train de vivre.
Et tu as raison de reprendre l'exemple de ce matin parce que ce n'est pas des cas de gens là, qui tirent le... C'est quand tu as deux emplois à temps plein puis que tu n'arrives même pas à te payer un loyer décent pour abriter ta famille, c'est qu'on a vraiment un problème. Marie-Claude, ben, bonne chance pour ta fille parce qu'en effet, passer d'un statut de locataire à un statut de propriétaire, c'est quand même extrêmement important, mais c'est extrêmement difficile de l'avoir aujourd'hui. Marie-Claude, ma chère brebis bergère, on va s'ennuyer de ton costume. Mais en tout cas, les gens dans ton entourage sont bien chanceux parce qu'ils vont avoir toujours ta voix et puis vont pouvoir continuer à t'entendre chanter. Merci beaucoup, Marie-Claude.
Merci, Sophie.
À demain.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
C'est vraiment littéralement une bombe qui a explosé en France la semaine dernière, il y a exactement une semaine. C'est le rapport de la commission Sauvé sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique. On apprend qu'il y a eu, depuis les années 50, 216 000 victimes mineures de différents membres de l'Église catholique. À 80%, les victimes étaient des garçons et dans la plupart des cas, vraiment des très, très jeunes garçons. J'avais envie de parler de ce phénomène-là, de cette hypocrisie de l'Église catholique avec Frédéric Martel. Je vous explique qu'il est auteur d'un livre qui a fait énormément de bruit, pas juste en France, mais partout à travers le monde. Son livre s'intitulait Sodoma, et c'était une enquête au cœur du Vatican. Et donc, il est très bien placé pour pouvoir nous parler de ce qui s'est passé au sein de l'Église catholique. Je le rejoins tout de suite en France. Frédéric Martel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous êtes sociologue, vous êtes journaliste. Quand vous avez pris connaissance des résultats de la commission Sauvé, quand vous avez vu ces chiffres-là, 216 000 victimes de l'Église catholique, comment vous avez réagi, M. Martel?
Écoutez, on a une double réaction. La première réaction, c'est la stupéfaction. La stupéfaction par rapport aux chiffres, qui sont phénoménaux. Hein. Vous l'avez dit, plus de 300 000 enfants, pour la plupart, en tout cas jeunes, qui ont été sous des formes diverses, harcelés, agressés, parfois violés par des prêtres ou des personnes en charge des institutions catholiques, des aumôneries, le catéchisme, etc. Et en même temps, particulier pour quelqu'un qui, comme moi, a travaillé sur ces questions depuis 5-6 ans, une forme de... J'oserais presque dire, on s'attendait à ça. Peut-être pas dans l'ampleur, mais ça ne nous surprend pas pour de très multiples raisons.
D'accord. Alors bon, on va pouvoir en parler parce que ce que vous démontriez dans votre livre, c'est une hypocrisie de l'Église catholique, une hypocrisie du Vatican, c'est-à-dire que des gens qui en public disent sont vraiment très homophobes, en privé sont très homosexuels, et donc je veux pas évidemment faire de lien entre l'homosexualité et la pédophilie, mais il reste que il y a au cœur de l'Église catholique une hypocrisie, c'est-à-dire qu'on fait la morale aux gens en leur disant il faut surtout pas avoir ce comportement-là, mais en privé, on se permet tout, en fait.
Oui, plus largement, ce que cette étude, qui, je le rappelle, a été voulue par l'Église, donc elle est extrêmement sérieuse, et surtout, elle ne peut pas être contestée par l'Église, puisque c'est la conférence des évêques de France qui a mis en place cette commission Sauvé, confiée à ce qui est l'un des plus hauts magistrats français du droit public. Donc, commission qui est irréfutable, les spécialistes n'étaient pas particulièrement hostiles à l'Église, hein. Beaucoup d'entre eux sont des spécialistes du catholicisme, mais beaucoup d'entre eux sont catholiques. Donc, la commission, son travail, ne fait l'objet d'aucune critique. En revanche, il est vrai que ça met au grand jour, au fond, non pas seulement une hypocrisie, mais un système général, je dirais, de mensonges. De mensonges avec la vérité. L'Église ment depuis longtemps, mais en particulier, je dirais, aujourd'hui, sur la sexualité des prêtres, sur la chasteté, sur le célibat, mais également aussi sur la politique, avec énormément de politisation, souvent d'extrême droite, qui est tue, qui est cachée, également sur l'argent, avec des systèmes de financement très opaques au Vatican, mais également en Espagne, au Mexique, au Chili, etc. Et enfin, ce qui se passe en France, je dirais presque, n'est que une nouvelle vague d'affaires qui connaissent une ampleur similaire en Irlande, aux États-Unis, mais également au Chili, il y a 3-4 ans, au Mexique, en Colombie, à Cuba. On a eu ce problème en Irlande, je l'ai dit. On a eu ce problème en Autriche, on l'a eu en Belgique, on l'a pour une part aussi au Royaume-Uni. Donc, au fond, c'est ce qu'il faut comprendre, que ce ne sont pas des cas individuels.
Voilà.
Bien sûr, les coupables, ce sont ceux qui commettent ces actes, mais au-delà, c'est un système qui est fautif parce qu'il repose sur de l'hypocrisie et du mensonge.
Voilà, mais ce que vous nous décrivez, on comprend fort bien que le système a protégé ces individus-là. On se demande même si le système les a pas encouragés, parce que quand on se rend compte qu'il y a un curé dans la paroisse X qui abuse d'enfants, qui viole des enfants, au lieu de le punir, on le prend et on l'emmène dans une autre paroisse, sachant fort bien que là, il va agresser d'autres enfants. Donc, la question que je vous pose, M. Martel, est assez simple. S'il y a autant de pédophiles, s'il y a autant d'agresseurs et de prédateurs au sein de l'Église catholique, comment se fait-il qu'il y a une partie de la population qui continue à accorder sa confiance à cet organisme-là, qui protège systématiquement des agresseurs?
Alors d'abord, je relativiserai un tout petit peu ce que vous dites. D'abord, je ne crois pas profondément, en tout cas en tant que structure, que l'Église, sous quelque forme que ce soit, encourage la pédophilie. Je crois qu'elle la combat, depuis d'ailleurs longtemps. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle a institué un système, une culture du secret, qui vise d'abord à protéger le secret de la sexualité des prêtres, et souvent d'ailleurs avec des femmes adultes, des hommes adultes, donc qui n'est en soi pas critiquable d'un point de vue de la loi. Donc ces prêtres qui ont une sexualité, je dirais parfois normale, ils sont protégés par le secret de l'Église, ce qui fait que des pédophiles qui, eux, vont avoir un comportement tout à fait illégal, sont également protégés par ce système, bien que ce système n'avait pas pour objectif premier de protéger ces pédophiles. Donc je pense qu'il faut, il y a bien sûr des exceptions, il y a évidemment des pédophiles systémiques, mais je crois que l'Église en tant qu'institution est plutôt victime de cette institution du secret sur le célibat, sur aussi tout simplement sur la confession, qui est aussi un des lieux très, moi dans mon étude, dans ce livre Sodoma, on m'a expliqué que beaucoup des personnes qui découvraient leur homosexualité, qui en faisaient état lorsqu'ils étaient jeunes au prêtre, se faisaient ensuite draguer par le prêtre. Donc, parfois même des personnes adultes d'ailleurs, donc il n'y avait pas en soi, c'était pas illégal d'un point de vue du droit. Après tout, un prêtre peut très bien, la loi n'a rien contre le fait qu'il ait une sexualité si elle est faite avec des gens adultes, et s'il n'y a pas d'autorité entre lui et la personne avec qui il a cette relation. Évidemment, il y a un doute sur la confession, puisque la confession, c'est quand même une autorité sur quelqu'un. Mais donc, on voit bien le système. J'ajoute aussi une dernière chose, c'est que par rapport à ce que vous dites, je crois qu'on ne peut pas... c'est pas parce qu'il y a 300 000 victimes qu'il y a 300 000 pédophiles. Je crois qu'il y a d'abord des multirécidivistes qui ont pu... durant leur carrière, peut-être agresser ou violenter plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Donc c'est un nombre bien plus bas de prêtres concernés. Et d'autre part, je pense aussi qu'il faut, on peut pas, enfin tous les actes aussi critiquables soient-ils, ne peuvent pas être mis sur le même plan. C'est une chose que de draguer, de coucher lorsqu'on est un prêtre avec un jeune adulte qui a plus de 18 ans, ça en est une autre que de violer un mineur.
Donc, absolument.
C'est pas tout à fait la même chose.
Non,
c'est même pas du tout la même chose.
Je comprends. Mais on revient toujours à la question centrale, qui est la sexualité des prêtres. Est-ce que vous pensez, sincèrement, après toute cette enquête que vous avez menée, est-ce que vous pensez que si demain matin, l'Église catholique disait on n'oblige plus les prêtres au célibat, ils peuvent vivre au grand jour leur sexualité, que ce soit épouser une femme, que ce soit épouser un homme, ou que ce soit simplement avoir des relations hors mariage, avoir une sexualité épanouie, est-ce qu'on réglerait un certain nombre de problèmes au sein de l'Église catholique, selon vous?
Alors, il faut bien voir que ce dont on parle, la commission Sauvé, concerne des affaires qui datent, en gros, depuis la guerre. Donc, c'est sur une très longue période. Donc, si vous voulez, le problème, déjà, c'est que quand même aujourd'hui, tout cesserait, s'il n'y avait plus aucun acte, vous aurez encore des affaires de pédophilie pendant les 50 ans qui viennent. Ce qui est normal, puisqu'il y a du recul par rapport à des actes commis lorsque les gens étaient enfants, et souvent ils se mettent à parler que quand ils sont beaucoup plus âgés. Donc c'est ça le problème de l'Église, c'est que l'affaire n'est pas finie, quand bien même les règles seraient différentes. Deuxièmement, moi je suis persuadé, et d'ailleurs le malgré tout l'islam, le protestantisme, le judaïsme nous montrent, il y a des affaires aussi, mais il n'y a pas des affaires à ce point systémiques, et pas en plus des affaires qui concernent très spécifiquement, massivement, les garçons dans les autres religions. Donc il y a réellement un problème spécifique à l'Église catholique, et là je crois que, de toute façon, ce n'est pas un problème idéologique, ce n'est pas un problème même lié en soi à la pédophilie, c'est d'abord un problème démographique. Vous avez aujourd'hui, en France par exemple, 800 prêtres qui meurent chaque année, et vous en avez en gros 50, 60 qui sont ordonnés. Ça veut dire que dans 10 ans, il n'y a plus de prêtres en France. Donc le problème, il est simple, il est démographique. L'Église est obligée d'autoriser les prêtres à se marier parce que sinon ils ne veulent plus devenir prêtres. Elle doit consacrer les femmes et leur permettre d'être elles aussi prêtres. Et de fait, peu à peu, il y aura aussi le besoin d'autoriser les prêtres à être homosexuels. Vous savez, les choses sont très simples. Le débat, il se calcule d'une manière tout à fait simple. Vous avez le choix entre imposer le célibat et la chasteté, et avoir des prêtres qui caressent des enfants, ou autoriser les prêtres à être gays avec un adulte consentant ou avec une femme et hétérosexuelle avec des enfants. Moi, mon choix, il est très vite fait. Je préfère un prêtre gay ouvertement ou un prêtre hétérosexuel marié qu'un prêtre qui caresse des enfants.
Ben écoutez, c'est extrêmement bien résumé. Frédéric Martel, j'encourage tout le monde à lire votre livre Sodoma, enquête au cœur du Vatican. Un livre justement qui lève le voile sur cette hypocrisie et ce mensonge. Merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous à cette réalité vraiment triste, et j'aime vraiment beaucoup votre conclusion. Merci beaucoup, Monsieur Martel.
Merci.
Frédéric Martel, donc sociologue, journaliste, qui réfléchissait avec nous à cette histoire absolument sordide. Donc, plus de 216 000 enfants qui ont été victimes de prêtres catholiques en France. J'ai très hâte de voir les résultats d'une enquête semblable ici au Québec. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Dominique Plamondon, à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence Lamoureux, à la recherche. Et on se retrouve bien sûr demain.
Cube Radio.